Chapitre 6. Procès de Partridge, le maître d'école, pour cause d'incontinence. Témoignage de sa femme. Courte réflexion sur la sagesse de nos lois, avec d'autres matières sérieuses, que l'on aimera d'autant plus qu'on les entendra mieux. On peut s'étonner qu'une histoire si bien connue, et qui avait fourni tant de sujets de conversation, ne fût jamais parvenue aux oreilles de M. Allworthy, le seul peut-être dans tout le comté qui n'en eût pas entendu parler. Pour expliquer cela au lecteur jusqu'à un certain point, je crois convenable de l'instruire qu'il n'y avait pas dans tout le royaume un homme moins intéressé que M. Allworthy à rejeter la doctrine que nous avons exposée dans le chapitre précédent concernant le sens du mot « charité ». Car il possédait également cette vertu dans l'une et l'autre acception. Comme personne n'était plus sensible aux besoins des autres et plus empressé de soulager leur misère, personne aussi n'était plus circonspect à prononcer sur leur honneur et n'était plus lent à croire quelque chose à leur désavantage. C'est pourquoi la médisance ne trouva jamais d'accès auprès de lui, car si, comme on l'a souvent observé, l'on peut connaître un homme par la société qu'il fréquente, j'oserais avancer que par le ton de la conversation qui règne à la table d'un homme puissant, on peut juger de sa religion, de sa politique, de son goût et de son caractère. Bien qu'il y ait des hommes assez bizarres pour oser exprimer leurs sentiments dans tous les lieux où ils se trouvent, la plupart jouent assez bien le rôle de courtisans pour accommoder leur conversation aux goûts et aux inclinations de leurs supérieurs. Mais j'en reviens à Mrs. Wilkins, qui, après avoir rempli sa mission en grande hâte, quoiqu'à 15 000 de distance, confirma tellement le crime du maître d'école que M. Allworthy se détermina à faire venir le coupable pour l'entendre. M. Partridge fut donc sommé de se tenir prêt à répondre à l'accusation intentée contre lui et de préparer ses moyens de défense s'il en avait. À l'heure fixée, comparut devant M. Allworthy lui-même, dans la salle dite du paradis, le dit Partridge, avec Anne sa femme et Mrs. Wilkins son accusatrice. M. Allworthy ayant pris séance dans son fauteuil de juge, M. Partridge fut amené devant lui et, après avoir entendu ses accusations de la bouche de Mrs. Wilkins, se déclara non coupable, en faisant les plus fortes protestations de son innocence. Mrs. Partridge fut ensuite interrogée. Après s'être excusée modestement de l'obligation où elle se trouvait de témoigner la vérité contre son mari, elle rappela toutes les circonstances que le lecteur connaît et conclut par déclarer que lui-même avait avoué son crime. Je ne me hasarderai point d'affirmer que Mrs. Partridge eût jamais pardonné sincèrement à son mari, mais il est certain qu'elle se trouvait malgré elle témoin dans cette cause. Et il est probable, pour certaines autres raisons, qu'elle n'aurait jamais été d'elle-même portée à déposer contre lui si Mrs. Wilkins n'était pas adroitement parvenue à lui faire confesser le tout et ne lui avait pas promis, au nom de M. Allworthy, que la punition de son mari ne serait pas de nature à rejaillir sur elle. Partridge persista à protester de son innocence, quoiqu'il convînt d'avoir fait l'aveu qu'on lui reprochait. Il tâcha cependant de l'excuser en affirmant qu'il y avait été contraint par les continuelles importunités de sa femme, qui avait juré qu'étant sûre de son crime, elle ne cesserait pas de le tourmenter jusqu'à ce qu'il l'eût avoué, et lui avait positivement promis que s'il l'avouait, elle ne lui en parlerait plus. Ce qui l'avait induit, ajouta-t-il, à se confesser coupable, quoiqu'il fût innocent, et l'aurait poussé par le même motif jusqu'à convenir d'un meurtre. Mrs. Partridge ne put souffrir patiemment cette imputation, et, ne pouvant, dans le lieu où elle était, se soulager que par des pleurs, les appela en hâte à son secours. Ils vinrent aussitôt en abondance. Puis, s'adressant à M. Allworthy, elle dit, ou plutôt s'écria, « Permettez-moi, monsieur, de déclarer qu'il n'y eut jamais une pauvre femme plus outragée que je le suis, par ce vilain homme, car ce n'est pas le seul exemple de sa fausseté envers moi. Non, je vous en demande pardon, il n'a que trop souvent souillé mon lit par ses débauches. J'aurais pu me résoudre à supporter son ivrognerie et le dérangement de ses affaires s'il n'avait pas d'ailleurs violé l'un des plus sacrés commandements de Dieu. D'ailleurs, je n'insisterai pas tant sur son crime s'il avait été commis hors de chez moi. Mais avec ma propre servante, dans ma propre maison, sous mon propre toit, souiller mon chaste lit, ce qu'il a fait, j'en suis sûr, en y admettant les plus viles et les plus infâmes créatures. Oui, malheureux, vous avez souillé, vous avez déshonoré mon lit. Et de plus, vous m'avez accusé de vous avoir contraint de confesser la vérité. Est-il vraisemblable, je vous le demande, que j'ai pu lui faire cette violence? J'ai assez de marques sur le corps qui prouvent sa cruauté envers moi. Malheureux, si vous aviez été un homme, vous auriez dédaigné de traiter une femme de cette manière. Mais vous n'êtes pas un homme, vous le savez bien. Vous n'avez pas été non plus un mari pour moi. Et voilà ce qui vous oblige sans doute à courir après des malheureuses. Et puisqu'ils me provoquent, je suis prête, si vous l'exigez, de jurer sur ma tête que je les ai trouvés couchés ensemble. Ce que vous avez sans doute oublié, scélérat, quand vous m'avez battu dans un accès de fureur, et que vous m'avez fait ruisseler le sang sur le visage, seulement parce que je vous reprochais votre adultère avec douceur. Mais toutes mes voisines me serviront de témoin. Ah, vous avez brisé mon cœur. Oui, oui, vous l'avez brisé. » Ici, M. Allworthy l'interrompit et la pria de s'apaiser, lui promettant justice. Puis, se tournant vers Partridge, qui demeurait interdit, l'esprit troublé autant par la surprise que par la crainte, il lui dit qu'il était fâché de voir qu'il y eût un aussi méchant homme que lui dans le monde. Il lui déclara que ses mensonges et les démentis qu'il se donnait à lui-même aggravaient considérablement son crime, et qu'il ne pouvait l'expier que par un aveu et un repentir sincère. Il l'exhorta donc à commencer sur le champ par confesser le fait, et à ne point persister à nier ce qui était si évidemment prouvé contre lui par le témoignage de sa propre femme. Je demande au lecteur un moment de patience pour féliciter ici notre jurisprudence de la haute sagesse et de la plus grande sagacité avec lesquelles elle refuse le témoignage d'une femme pour ou contre son mari. Ce serait, dit un savant auteur, qui, à ma connaissance, n'a jamais été cité ailleurs que dans un livre de droit, ce serait le moyen de créer des procès interminables entre eux. Quelle source de parjures! Quelle foule d'époux seraient éternellement condamnés au fouet, à l'amende, à la prison, au bannissement, à la potence? Partridge gardait toujours le silence, jusqu'à ce qu'ayant reçu l'ordre de parler, il dit qu'il avait déjà déclaré la vérité, qu'il appelait de son innocence au ciel et à la jeune fille elle-même, qu'il désirait que M. Allworthy voulût bien envoyer chercher sur le champ, car il ignorait ou feignait d'ignorer qu'elle n'habitait plus le comté. M. Allworthy, qu'un sang-froid admirable et un amour naturel pour la justice avaient rendu le magistrat le plus patient à entendre tous les témoins que les accusés pouvaient produire en leur faveur, consentit à différer son jugement jusqu'à l'arrivée de Jenny, à laquelle il dépêcha sur le champ un courrier. Et après avoir recommandé la paix à Partridge et à sa femme, mais en s'adressant plus directement au mari, il les remit à 3 jours, car il fallait une journée entière de chemin pour se rendre au lieu qu'habitait Jenny. Au jour fixé, toutes les parties étant en présence, le courrier revint et apporta la nouvelle qu'il n'avait pu trouver Jenny, qu'elle avait quitté son habitation peu de jours auparavant, avec un officier chargé de faire des recrues. M. Allworthy déclara en conséquence que le témoignage d'une aussi méprisable créature n'aurait mérité aucune confiance. Mais il dit en même temps qu'il ne pouvait s'empêcher de penser que si elle avait été présente et eût déclaré la vérité, elle aurait confirmé ce qui était suffisamment prouvé par tant de circonstances, jointes à l'aveu de Partridge et à la déclaration de sa femme. Il exhorta donc encore une fois Partridge à tout avouer. Mais quoiqu'il ne cessât de protester de son innocence, M. Allworthy le déclara convaincu du délit qu'on lui imputait et ajouta qu'il était un trop méchant homme pour recevoir de lui aucun encouragement. En conséquence, il le priva de la rente qu'il lui faisait et lui recommanda le repentir pour l'autre monde, ainsi que le travail pour se soutenir avec sa femme dans celui-ci. Le pauvre Partridge se trouva ainsi le plus malheureux des hommes. Il perdait la meilleure partie de son revenu par le témoignage de sa femme, qui cependant lui faisait chaque jour, entre autres reproches, celui d'avoir été la cause de cette perte. Mais tel était son sort, et il fut obligé de s'y soumettre. Quoique je l'appelle le pauvre Partridge, je souhaite que le lecteur veuille bien imputer cette épithète à la bonté de mon cœur, plutôt que d'en rien conclure en faveur de son innocence. S'il est innocent ou coupable, c'est ce qu'on verra par la suite. Mais si la muse qui préside à l'histoire m'a confié quelques-uns de ses secrets, je ne me rendrai point coupable en les divulguant, jusqu'à ce qu'elle m'en ait donné la permission. Le lecteur doit donc ici suspendre sa curiosité. Ce qu'il y a de certain, c'est que les témoignages étaient plus que suffisants pour convaincre Partridge aux yeux de M. Allworthy. Il en aurait fallu beaucoup moins à un tribunal de justice pour une affaire de cette nature. Et cependant, malgré l'assurance positive de Mrs. Partridge, qui aurait juré s'il l'eût fallu sur ce qu'il y a de plus sacré, il était encore possible que le maître d'école fût parfaitement innocent. Car, en comparant l'époque à laquelle Jenny avait quitté le petit Baddington avec celle de son accouchement, quoiqu'il parût démontrer que le petit enfant y avait été conçu, il ne s'ensuivait pas nécessairement que Partridge dût en être le père. En omettant même beaucoup d'autres particularités, il y avait dans la même maison un jeune garçon de près de 18 ans, lequel avait eu avec Jenny une intimité constante qui eût seul suffi pour fonder un soupçon raisonnable. Et cependant, la jalousie est si aveugle que cette circonstance n'entra pas même une fois dans la tête de l'enragée Mrs. Partridge. Que Partridge se repentit ou non, suivant les conseils de M. Allworthy, c'est ce qui n'est pas tout à fait si évident. Ce qu'on peut assurer, c'est que sa femme se repentit au fond du cœur du témoignage qu'elle avait porté contre lui, surtout dès qu'elle reconnut que Mrs. Deborah l'avait trompée et avait refusé de s'intéresser pour elle auprès de M. Allworthy. Elle réussit mieux auprès de Mrs. Blifil, que nous avons dépeinte au lecteur comme une femme d'un beaucoup meilleur caractère, et qui très obligeamment s'employa auprès de son frère pour l'engager à rétablir la rente de Partridge, ce à quoi, sans vouloir pourtant ôter à son bon cœur la part qu'il pouvait y avoir, elle était portée par un motif plus fort et plus naturel que l'on verra dans le chapitre suivant. Ses sollicitations ne furent pas cependant sans succès, car bien que M. Allworthy ne pensât pas avec quelques écrivains modernes que la pitié, bien entendu, consiste seulement à punir les coupables, il était aussi loin de penser que ce fût le propre de cette excellente qualité de pardonner légèrement aux plus grands criminels. Il avait toujours égard au plus léger doute, à la plus faible circonstance, qui pouvait l'autoriser à mitiger les peines. Mais les prières du coupable, ni les sollicitations des autres, ne pouvaient l'ébranler. En un mot, il ne pardonnait jamais, quand il n'avait d'autre raison pour pardonner, sinon que le coupable ne voulait pas être puni, ou que ses amis voulaient qu'il ne le fût pas. Partridge et sa femme furent donc obligés de se soumettre à leur destinée. Et il faut en convenir, elle était très fâcheuse. Car, loin de s'occuper à remplacer par son travail la rente qu'il venait de perdre, il s'abandonna en quelque sorte au désespoir. Et comme l'indolence était dans sa nature, ce vice augmenta au point qu'il perdit jusqu'à la petite école qu'il avait, et que ni sa femme ni lui n'auraient eu de quoi vivre si la charité de quelques bons chrétiens n'y avait pourvu en leur fournissant le plus strict nécessaire. Comme ces secours leur étaient donnés par une main inconnue, on imagina, et le lecteur imaginera sans doute, que leur bienfaiteur caché était M. Allworthy lui-même, qui, quoique bien éloigné de vouloir encourager le vice, pouvait, sans se faire connaître, soulager la misère des coupables quand elle était devenue disproportionnée à leur faute. C'est sous ce point de vue que la fortune elle-même envisagea leur détresse, car elle prit enfin pitié de ce misérable couple et diminua considérablement le malheur de Partridge en mettant fin à celui de sa femme, qui mourut bientôt après de la petite vérole. La justice que M. Allworthy avait exercée sur Partridge fut d'abord louée généralement. Mais le pauvre maître d'école n'en eut pas plus tôt éprouvé les fatales conséquences que ses voisins commencèrent à s'attendrir et à le plaindre. Ils ne tardèrent pas à blâmer comme un acte de rigueur et de sévérité ce qu'ils appelaient auparavant un acte de justice. Ils finirent par se récrier contre une punition infligée de sang-froid et à faire l'éloge de la pitié et de la clémence. Ces cris devinrent encore plus violents par la mort de Mrs. Partridge, que l'on n'avait pas honte d'imputer à la sévérité, ou, comme on l'appelait alors, à la cruauté de M. Allworthy, quoique la maladie dont elle était morte fût parfaitement connue, et ne put être regardée comme le résultat de la misère. Partridge, ayant perdu sa femme, son école et sa rente, la personne inconnue qu'il avait secourue ayant discontinué ses bienfaits, résolut de changer de théâtre et abandonna un pays où il était en danger de mourir de faim au milieu de la compassion générale de ses voisins. Chapitre 7. Légère esquisse du genre de bonheur qu'un couple sage peut tirer de la haine. Courte apologie de ceux qui ne s'arrêtent point aux imperfections de leurs amis. Quoique le capitaine fût parvenu à ruiner absolument le pauvre Partridge, il n'avait pas encore recueilli tout le fruit qu'il en espérait, celui de chasser le petit enfant trouvé du château de M. Allworthy. Ce gentilhomme, au contraire, se passionnait tous les jours de plus en plus pour le petit Tommy, comme s'il eût eu l'intention de contrebalancer en quelque sorte sa sévérité envers le père par une tendresse extraordinaire pour le fils. Cette conduite aigrissait le capitaine, non moins que tous les autres actes de générosité dont M. Allworthy se rendait tous les jours coupable envers lui, car il regardait ces sortes de largesses comme des vols faits à sa propre fortune. Nous avons dit qu'en cela il n'était point d'accord avec sa femme, avec qui, à la vérité, il l'était fort rarement sur tout autre sujet. Car, bien que l'amour qui a pour fondement les qualités de l'esprit soit considéré par un grand nombre de personnes sages comme plus durable que celui qui est fondé sur la beauté, le contraire eut lieu dans cette union. L'esprit même de ce couple était leur principale cause de disputes et l'occasion de nombreuses querelles qui s'élevaient trop souvent entre eux et qui finirent du côté de la femme par un souverain mépris pour son mari et du côté du mari par la haine la plus forte pour sa femme. Comme ils s'étaient tous deux livrés avec succès à l'étude de la théologie, ils en faisaient, depuis les premiers moments de leur connaissance, le sujet le plus ordinaire de leur conversation. Le capitaine, comme un homme bien élevé, avait, avant son mariage, toujours soumis son opinion à celle de sa femme. Non avec cette maladresse grossière d'un sot opiniâtre qui, même lorsqu'il cède, n'est pas fâché de laisser apercevoir qu'il croit encore avoir raison. Le capitaine, au contraire, quoique l'homme du monde le plus vain, cédait si absolument la victoire à son antagoniste que Mrs. Bridget, qui n'avait pas le moindre doute de sa sincérité, se retirait toujours de la discussion contente d'elle-même et de lui. Mais bien que cette complaisance pour une personne que le capitaine méprisait profondément ne fût pas si pénible pour lui qu'elle l'aurait été si l'espérance de s'avancer dans le chemin de la fortune ne lui avait fait une nécessité de montrer la même soumission à un Hoadley ou à quelque autre personnage d'une grande célébrité dans les sciences, elle finit par lui coûter trop pour la continuer sans motif. Le mariage les ayant tous écartés, cette complaisance lui devint tellement insupportable qu'il commença à traiter les opinions de sa femme avec cette hauteur et cette insolence dont il n'y a que des gens dignes de mépris qui puissent se rendre coupables, et que peuvent supporter ceux-là seuls qui ne méritent point qu'on les méprise. Quand le premier torrent de tendresse fut écoulé, et lorsque dans le calme et les longs intervalles de leur amour, la raison commença à ouvrir les yeux de Mrs. Blifil, dès qu'elle vit ce changement de conduite dans le capitaine, qui ne répondait plus à aucun de ses arguments qu'avec une ironie insultante, elle ne put supporter cette indignité. Elle en fut d'abord si vivement offensée qu'il s'en serait suivi quelque événement tragique si le plus profond mépris pour son mari n'avait un peu adouci la haine qu'elle ressentait pour lui, quoiqu'elle en eût encore une assez forte dose. La haine que le capitaine avait pour elle était beaucoup plus franche. Il ne la méprisait pas davantage parce que ses connaissances étaient imparfaites ou mal exprimées que parce qu'elle n'avait pas 6 pieds de haut. Dans l'opinion qu'il avait du sexe féminin, il l'emportait en morosité sur Aristote lui-même. Il considérait une femme comme un animal domestique, un peu plus utile qu'un chat, parce que ses fonctions ont un peu plus d'importance. Mais la différence entre les deux lui paraissait si légère que dans son mariage avec le château et les terres de M. Allworthy, il lui aurait été absolument égal de prendre une femme ou un chat par-dessus le marché. Cependant, son orgueil était si sensible qu'il s'aperçut bientôt du mépris que sa femme commençait à lui montrer, ce qui, joint à la satiété qu'il éprouvait de son amour, lui inspira pour elle un dégoût, une sorte d'horreur qu'il serait impossible de porter plus loin. Il n'y a peut-être qu'une situation dans le mariage qui en exclut tout à fait le plaisir, c'est l'état d'indifférence. Mais comme j'espère qu'un grand nombre de mes lecteurs connaît le plaisir qu'on goûte à rendre heureux l'objet qu'on aime, peu d'entre eux, sans doute, ont éprouvé l'horrible satisfaction de tourmenter celui qu'on hait. C'est probablement pour se procurer ce dernier genre de plaisir que nous voyons un grand nombre d'époux renoncer à la tranquillité dont ils pourraient jouir malgré leurs défauts réciproques. De là vient que souvent une femme feint des transports d'amour ou de jalousie, se refuse même tous les plaisirs pour troubler ou empêcher ceux de son mari, et que pour lui rendre l'appareil, le mari se contraint lui-même, reste chez lui, au milieu d'une société qu'il déteste, afin d'y retenir sa femme qui ne la déteste pas moins. C'est aussi de cette source que découlent sans doute les pleurs qu'une veuve répand souvent avec tant d'abondance sur les cendres d'un époux avec lequel elle a mené une vie aussi agitée que pénible et qu'elle n'a plus l'espoir de tourmenter. Mais si jamais deux époux ont joui de ce plaisir, c'est sans contredit le capitaine et sa femme. C'était une raison suffisante pour l'un des deux de soutenir opiniâtrement une opinion quelconque que l'autre eût d'abord affirmé le contraire. Si l'un proposait une partie de plaisir, l'autre la rejetait. Il n'aimait, ne haïssait, ne louait, ne blâmait jamais la même personne. En conséquence, depuis que le capitaine parut voir d'un mauvais œil le petit enfant trouvé, sa femme se mit à le caresser presque autant que le sien propre. Le lecteur n'aura pas de peine à concevoir que cette manière d'être entre le mari et la femme ne contribua pas beaucoup au repos de M. Allworthy, qui avait espéré que cette alliance aurait fait le bonheur de tous trois. La vérité est, cependant, qu'il était bien loin de savoir tout, car, pour certaines raisons faciles à deviner, le capitaine étant toujours sur ses gardes en sa présence, sa femme, de peur de déplaire à son frère, était obligée de tenir la même conduite. Dans le fait, il est possible à un tiers d'être très lié, de vivre même longtemps dans la même maison avec deux époux qui ont quelque discrétion, et de ne rien apercevoir de l'aigreur qu'ils ont l'un pour l'autre. Car, bien que le jour tout entier soit quelquefois trop court pour la haine aussi bien que pour l'amour, cependant les heures que deux époux passent naturellement ensemble à l'abri de toute observation fournissent à ceux qui savent se modérer assez d'occasions pour se livrer à l'une ou à l'autre de ces deux passions, en sorte que, s'ils s'aiment, ils peuvent supporter d'être quelques heures en compagnie sans folâtrer ensemble, et s'ils se haïssent, sans se cracher au visage. Il est possible cependant que M. Allworthy en vit encore assez pour le rendre un peu inquiet, car nous ne devons pas toujours conclure qu'un homme sage n'est pas blessé parce qu'il ne crie ni ne pleure comme une femme ou un enfant. Il serait encore possible qu'il eût aperçu quelques défauts dans le capitaine sans en être offensé, car les gens sages, qui ont en outre de la bonté, se contentent de prendre les personnes et les choses comme elles sont, sans se plaindre de leurs imperfections, ni tenter de les corriger. Ils peuvent voir un défaut dans un ami, dans un parent, dans une simple connaissance, sans jamais en parler ni à eux ni aux autres, et souvent sans diminuer en rien de l'affection qu'ils leur portent. Et à moins que notre discernement ne soit tempéré par cette bienveillante disposition, ce serait une folie d'oser contracter la moindre amitié. Car j'espère que mes amis voudront bien me pardonner si je leur déclare que je n'en connais aucun de parfait. Et je serais fâché si je pouvais croire qu'ils ne s'aperçussent pas de mes défauts. Nous nous accordons et nous demandons en échange ces sortes de pardons. C'est un devoir, et peut-être le plus agréable des devoirs de l'amitié. Il nous faut accorder ces pardons sans même exiger qu'on se corrige. Il n'y a peut-être pas plus de sûre marque de folie que de tenter de corriger les imperfections naturelles de ceux que nous aimons. Il peut se trouver un défaut dans la composition de la nature humaine comme dans celle de la plus belle porcelaine. Et je crains bien que dans l'une ou l'autre, il ne soit sans remède, quoique cependant le modèle puisse conserver la plus grande valeur. De tout ceci, l'on peut conclure que M. Allworthy découvrit certainement quelques défauts dans le capitaine. Mais comme ce dernier était extrêmement artificieux et toujours sur ses gardes devant lui, ses défauts ne semblaient à M. Allworthy que de légères taches dans un bon caractère. Voilà pourquoi sa bonté ne s'y arrêtait pas et sa sagesse l'empêchait d'en parler au capitaine. Comme il aurait changé de sentiment s'il avait su toute la vérité. Ce qui certainement serait arrivé si le mari et la femme avaient continué de se conduire encore longtemps de la même manière. Mais c'est ce que la fortune prit soin d'empêcher, en forçant le capitaine à faire une chose qui lui rendit pour jamais la tendresse de sa femme.